Donc on est dans notre troisième cours sur la Amida. D'accord, donc ouvrez vos livres, vos sidourim. C'est quelle page? C'est quelle page dans la Amida? Bon, vous regardez. Alors, donc on a expliqué la semaine dernière le concept de Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire quand on demande une bracha à Kadosh Baruch Hu?
61 avril.
Ça veut dire que les avrir, ça veut dire faire descendre. Ça veut dire qu'en vérité faire descendre. Voilà, on a la première bracha. Ça veut dire faire descendre une bracha. D'accord? Ça veut dire faire descendre, donc faire descendre la bracha comme ce qu'on a expliqué. Donc Baruch Ata Hashem Elokeinu Velokavotenu. On a expliqué aussi c'est quoi la différence entre Hashem et Elokeinu. Donc le concept général qu'on a expliqué la semaine dernière, c'était que grâce à la Amida et grâce au brachot en général, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous débloquer un crédit qu'il a déjà pour nous. Ça c'est le concept qu'on a expliqué de manière générale. De nous donner une bracha qui a déjà, qui existe déjà, il suffit simplement de la faire descendre. Donc après on a expliqué pourquoi on a dit Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Maintenant je vais reprendre à Akel Agadol Agibor Vadora. Alors, Akel, le Dieu, Agadol, Agibor, Vanora. Donc trois notions. Gadol, Gibor, Nora. Gadol, on a expliqué que ça veut dire que ça correspond au chesed, à la bonté. Gibor, quand on dit que quelqu'un est fort, d'accord, ça veut dire quoi quand on explique que c'est dans la force? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un qui a des armées, c'est quelqu'un qui est capable de lancer une guerre. Et Anora, c'est redoutable. Redoutable, ça veut dire quoi? Redoutable, ça veut dire que non seulement qu'il a une armée, mais on l'a déjà vu à l'action. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, mais les commentaires expliquent que à Gadol, Gibor, Nora, ça correspond à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Gadol, c'est écrit à propos de Avraham. Kadosh Baruch Hu, il a dit sur Avraham, il a dit qu'il appelle Gadol, d'accord? Il le considère grand. Gibor, bon ça bien entendu, dans le mot Gibor, on a le mot Gvura. Gvura, c'est la rigueur, et ça c'est la Mida de Yitzhak. Et enfin, Nora, redoutable, ça correspond à Yaakov. Sur Yaakov, c'est écrit que lorsqu'il était donc lorsqu'il a fait son rêve, c'est écrit Vaïra Vayomar Manora Makomase. Que lorsqu'il s'est trouvé à l'endroit du Beth Amikdash, il a craint, il a eu peur à ce moment-là. Et il a dit combien cet endroit est redoutable. Donc on voit que Gadol, Gibor, Nora, c'est en corrélation directe avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Donc de manière générale, Gadol, Gibor, Nora, comme ce qu'on a expliqué, ça correspond à Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça correspond à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, à sa rigueur et au fait que Dieu est redoutable. Ça c'est un deuxième point. Un troisième point qui est expliqué aussi, c'est expliqué dans le livre Et Yosef, il dit que Gadol, Gibor, Nora, ça correspond à tout ce qui forme notre monde. Il explique comme ça, il dit Gadol, d'accord, ça correspond au monde des Malachim. Pourquoi? Quel rapport avec le monde des Malachim? Puisque pour les Malachim, ils comprennent d'eux-mêmes que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus important. Gibor, ça correspond au Olam HaGalgalim. D'accord? Olam HaGalgalim, il y a plusieurs explications, mais une des explications Olam HaGalgalim, ça veut dire quand le spirituel commence à se transformer en matière. Et enfin, vers Nora, d'accord? Nora, quand on dit que Dieu est redoutable, ça c'est la Midat HaDin telle qu'elle est déjà ici-bas, ça veut dire que ça correspond au Olam Amassé, au monde de l'action. Donc bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but du cours d'aujourd'hui, mais de manière générale, Gadol, Gibor, Nora, ça correspond aussi, donc c'est dans la même lancée que ce qu'on a expliqué la semaine dernière, ça correspond, on est en train d'expliquer comment la bracha est en train de descendre d'en haut vers en bas. Ça c'est la notion générale qu'il faut se rappeler quand on fait la Mida. Vous n'avez pas besoin de rappeler de tous les détails que je vous dis, d'accord? Donc le plus important, c'est que Avraham, Yitzhak, Yaakov, et que la bracha est en train de descendre. Ensuite, Kel Elyon. Donc on est en train de remercier, on est en train de... Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on fait dans la première bracha de la Amida? À quoi ça sert la première bracha? Enfin, les premières brachot en général.
On introduit.
D'accord? C'est comme dans le courrier. Comment t'aurais dû venir dans le courrier?
Cher.
Hein?
De quoi?
On a dit, c'est comme dans un courrier. On a dit dans le courrier, il y a l'introduction, il y a la requête,
une rédaction,
d'accord,
et après
il y a le remerciement.
C'est la rédaction.
Donc les premières lignes, c'est
l'introduction.
L'introduction, voilà. C'est l'introduction. Donc ça, là, on est dans l'introduction. Là, on introduit Dieu, si on peut dire. D'accord. On s'introduit auprès de Dieu.
On se présente,
on dit, bon Dieu, tu es grand, tu es redoutable, j'ai entendu parler de vous, je suis sûr que vous pouvez m'aider, etc. Après tu demandes, et après tu dis, en l'attente de...
je remercie par avance.
Je remercie, c'est Modim Alartoular, c'est ça, hein. Bon, alors, quel Elyon? Quel Elyon, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire c'est un dieu qui est suprême. Par suprématie, qu'est-ce qu'on entend, monsieur Benichou?
Quoi,
en, français, en français, oui, la définition de suprématie.
C'est au-dessus de tout.
Au-dessus de tout, donc ça veut dire. Et alors, c'est... au-dessus, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous, on est en dessous déjà.
Très bien, donc ça veut dire, si lui il est au-dessus et nous on est en dessous, ça veut dire qu'il nous
domine.
Très bien. Très bien. Comment ça que Farchi m'explique? Quand on dit quel Elyon, que Dieu est suprême, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous domine. C'est le... ce point-là qu'on veut faire sortir ici. Gomel. Chassadim Tovim.
J'ai entendu aussi que oui. Kalélion, vous pouvez penser à Shiba, Shalkol et Shibot. Ça corrobore ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi que Hachem, c'est la cause des causes. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, il faut avoir la Emouna que c'est
Hachem. Et qu'en rapport avec Kalélion,
ça corrobore ce que tu dis.
La cause des causes, d'accord.
Donc tout ce qui nous arrive, toutes les causes qu'on a dans notre vie, en fait, tout vient d'Hachem.
J'ai compris, Khadak, ok. D'accord, j'ai compris. Alors, quel Elyon, donc Akadosh Baruch Hu est suprême, Gomel Chassadim Tovim. Akadosh Baruch Hu, il nous pourvoit, d'accord, de bonne bonté.
Prodigue.
Il prodigue.
Gomel, ça veut dire prodigue.
Gomel, c'est à prodiguer. D'accord,
ce qu'il me donne. Quand on récite le Gomel.
C'est un remerciement. C'est autre chose.
Il y a des Chassadim Tovim.
Alors justement, comment vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire Chassadim Tovim? C'est-à-dire quoi que quand je dis quelqu'un, il m'a donné une bonne bonté. Il m'a prodigué une bonne bonté. C'est-à-dire quoi une bonne bonté?
C'est une répétition.
C'est pas une répétition, ça veut rien dire.
Non,
c'est un pléonasme. C'est pire qu'un pléonasme. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises bontés?
C'est une bonté, ça doit être bon.
Alors?
Si c'est une bonté, ça doit être bon.
Bien sûr. C'est quoi Chassadim Tovim?
Des fois, on a des crasses, mais c'est pour
nous dire. On a des crasses, mais...
C'est pas un recette alors.
Non, c'est faux, on voit pas toujours en quoi c'est pour notre bien. Au contraire, c'est exactement le contraire. Qui dit enfin, c'est dans cette direction-là. C'est le avoudram qui explique. D'accord? Il y a deux explications. L'explication comment toi tu dis. Regarde. L'explication comme toi tu expliques que ça veut dire que c'est un chesed dans lequel il n'y a pas du tout de djinn. Ça c'est une explication qui explique le commentaire qui s'appelle Et Yosef. D'accord? Bon. Mais le avoudram, qui est le commentaire principal de la Tfila, un des commentaires principaux sur la Tfila, donne une autre explication. Il dit, ça veut dire quoi, Chassadim Tovim? Ça veut dire que c'est une bonté qui est mieux que le chesed de l'homme. C'est ce qu'il veut dire. Gomel Chassadim Tovim, ça veut dire que c'est une bonté qui est mieux que le chesed de l'homme, en d'autres termes, qui est toujours intéressé. D'une certaine forme. Un petit peu au moins. Quand on dit que Gomel Chassadim Tovim, ça veut dire quoi une bonne bonté? Ça veut dire qu'une bonté entièrement désintéressée. Mais il y avait aussi le deuxième pirouche du HSF, comme tu dis, qui dit que je te lis dans les mots, Od Pirusho Gomel Chassadim Tovim, She'en Baem Tarovot Din Klal. Deuxième explication, que Chassadim Tovim, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de djinn qui est mélangé. C'est dans la même direction que ce que tu voulais dire. Donc, toujours dans notre introduction, Gomel Chassadim Tovim, Akadosh Baruch Hu, il est suprême, donc c'est un Dieu qui est suprême, ça veut dire qu'il nous domine. Gomel Chassadim Tovim, il nous prodigue de vraies bontés. D'accord? Alors on aurait pu on peut traduire comme ça, de vraies bontés. Kone Hakol. Kone Hakol, ça veut dire quoi? Kone Hakol, ça veut dire que...
Qu'est-ce que t'as dit?
Alors, Kone Hakol, ça veut dire Hakadosh Baruch Hu. Alors, littéralement, Kone, un kinyan en hébreu, ça veut dire quoi? Une acquisition. Alors ça veut dire quoi que Kadosh Baruch Hu nous a acquis? Pourquoi on a déjà été extérieur à lui pour qu'il vienne nous acquérir? D'accord? Est-ce qu'on a déjà été... C'est quoi cette histoire qui nous a acquis? Ça veut dire quoi? Alors, Mefarchim m'explique les choses suivantes. Il dit, ça veut dire quoi Kone Hakol? D'accord? Kone Hakol, c'est basé sur Rabbeinu Bechaye, ça. Kone Hakol, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il nous a créé, et par le fait qu'il nous a créé, on lui appartient. Vous suivez? Ça veut dire comme ça, ça veut dire... Pourquoi on dit s'il connaît à quoi Kadosh Baruch Hu, il nous a pas acquéri? De toute façon, on s'est jamais appartenu pour que Dieu dise maintenant vous m'appartenez. Non. C'est Rashi qui explique, c'est basé sur un Rashi, donc avec Rabbeinu Bechaye, qui explique que connaît à quoi, ça veut dire que puisque Kadosh Baruch Hu nous a créé, D'accord ? Donc, automatiquement, on lui appartient. Puisque quelque chose que je crée m'appartient.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas séparé aussi de la
création ? Non. C'est pas ça ce que veut dire le film. Voilà. D'accord. Pour ça, c'est important d'expliquer.
Ça veut dire que tout ce qu'il crée, ça lui appartient d'office.
Tout ce qu'un homme crée lui appartient. C'est à moi. Si je le crée, c'est à moi.
C'est pour ça qu'on met au présent.
Oui. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, copyright. C'est quoi le copyright ? C'est que la création m'appartient. Quand j'ai créé quelque chose, le concept m'appartient. On est d'accord ? C'est du copyright. Donc, Kone Hakol, copyright. Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, Kone Hakol, je vous ai créé, donc vous m'appartenez.
C'est pour ça que, comme on dit que Hachem...
Comme un esclave, ce qui nous appartient, lui appartient obligatoirement.
C'est autre chose. On verra après ça. On n'a pas encore parlé du terme Adon. Je suis pas encore entré dedans.
Mais c'est pour ça qu'on dit que Hachem, il recrée le monde à chaque instant.
Oui, oui.
Ça veut dire qu'on peut expliquer peut-être comme ça que... On lui appartient en fait, il renouvelle son...
Alors ça, bon, il y a aussi ça, mais bon, on en a parlé dans le dernier cours du Tania, certainement tu l'écouteras, de cette notion-là. Okay. Alors, Kone Hakol, Vezocher Chasdei Avot, comme dans le courrier, ouais, d'accord, au début de l'introduction, ça n'a rien à voir avec ce qu'on demande, mais plus on avance, et plus on prépare, on introduit, on prépare la personne à ce qu'on va lui demander. Donc Vezocher Chasdei Avot, il se souvient des bontés de nos patriarches, là on commence à... Là, jusqu'à présent, on lui dit tu es beau, tu es grand, etc. Là, on dit, ah, tu sais, tu te rappelles, nos parents, ce qu'ils t'ont fait. Vezocher Chasdei Avot, il se rappelle donc des bontés des patriarches, du chesed qu'ont fait les patriarches. Encore d'autres termes, par chesed ici, il faut comprendre encore une fois, désintéressé. Vous voyez ? Chasadim Tovim. Ça veut dire que Dieu, souviens-toi de l'amour désintéressé que les patriarches ont eu envers toi.
Un homme, il peut faire une bonté désintéressée.
Les patriarches, oui.
Parce que bon,
nous,
notre
non.
Subconscient, même
c'est pratiquement impossible. Oui. Non, vous avez raison à 100%, à 1000%, vous avez raison.
C'est
justement l'explication de Chassanim Tomim. Donc, Vezorer Chassdei Avot, ou Mevi Goel. Donc, Dieu se souvient des bontés, de bonnes choses qu'ont fait les patriarches, et grâce à eux, grâce à leur fruit, grâce à leur mérite, ou Mevi Goel, il est en train d'amener Goel, le Messie, Livné et Vénéem à leurs petits-enfants. Ça veut dire que ma chère, c'est un processus. C'est pas, il va venir. Il est en train de venir. Ou Mevi Goel. D'accord ? Mevi, ça veut dire il est en train d'amener. En hébreu, si on veut dire il va amener, on aurait dû dire Veyavi Goel. Là, c'est écrit ici ou Mevi Goel. Mevi Goel, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, on est conscient qu'on est dans un processus que tu es en train d'amener, ma chère. Ça prend du temps.
Chaque jour.
D'accord ? C'est un processus qui prend du temps. Chaque jour. Donc, ou Mevi Goel, Livne Veneem, Akadosh Baruch Hu, donc il est en train d'amener le libérateur, donc le Mashiach, Livne Veneem, à leurs petits-enfants. Et c'est une manière de dire que même s'ils ne seront pas méritants, il leur amènera par le mérite des patriarches, d'accord ? Leman Shemo, et même si ce n'était pas
par
le mérite des patriarches, c'est-à-dire ni notre mérite, ni le mérite des patriarches, ça serait Leman Shemo, serait pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en vérité, on dit en vérité Akadosh Baruch Hu, c'est ni pour nous, ni pour nos patriarches. En vérité, c'est pour toi tout ça. D'accord ? Ça, c'est dans le courrier toujours, hein, tu me prépares. Deava, d'accord ? Tellement il nous aime. C'est-à-dire là, on l'a pris par les sentiments, par tout ce que vous voulez. D'accord ? On lui dit, Akadosh Baruch Hu, tu te rappelles du mérite de nos parents, et par rapport à ça, tu vas nous donner. Même si c'est pas pour ça, tu le feras pour toi, parce que tu nous aimes. C'est un fait. Bon, maintenant, on va passer à l'acte. Alors, Meler, attendez, c'est pas fini encore, là, on rajoute des petits trucs encore. Be'ahava. Alors, d'où on sait que Kadosh Baruch Hu nous aime, c'est écrit « Ahavat Olam Aftanu ». On le dit dans la fila. « Ahavat Olam », ça veut dire quoi ?« Ahavat Olam ». Ça veut dire un amour éternel. Olam, d'accord ? Ici, Olam, il faut comprendre par éternel. Ahavat Olam, ça veut dire que c'est pas nous qui disons, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit « Je vous aime un amour sans fin ». Donc, puisqu'il nous aime, de toutes les façons, il va nous amener le libérateur. Ensuite, Meler. Bon, Zochenou les Chaim, on n'est pas rationnel, donc on passe. Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen. Alors là, on se lance une nouvelle notion, la notion de roi. D'accord ? Meler. Pourquoi on n'a pas parlé de roi encore jusqu'à présent, n'est-ce pas ? C'est la première fois qu'on parle de roi. Pour l'instant, on a parlé de Dieu qui fait descendre la bracha, grâce au mérite de nos patriarches, qui nous donne du vrai recette désintéressé. Là, on a une nouvelle notion qui s'appelle Meler. Alors, on va lire d'abord. Meler, Akadosh Baruch Hu est un roi. Ozer, qui aide ou Moshia et qui sauve ou Magen et qui protège. Donc on va développer ces trois points. Tout d'abord, Meler, un roi. Qui c'est qui m'expliquait la différence entre un roi et un président ? En définition. Le droit de ? Non, je parle dans la définition, ça veut dire comment le roi se voit par rapport au peuple. D'accord. Très bien, un roi décide tout seul. Bon, très bien. Encore autre chose. Je parle. Alors, je vais affiner un peu plus ma question. Il n'est pas de compte à rendre, c'est ce que David a dit. Comment le roi se sent par rapport à son peuple ? Et comment le président se sent par rapport à son peuple ?
Le roi se sent fort.
Il se sent un peu père, le roi.
Un président, c'est élu.
Le roi, il se sent père, oui.
Un peu père de ses sujets.
Très bien.
Donc, j'ai un peu responsable.
Alors que le président.
Il y a plus d'un sincèrement que plus d'intérêt personnel. Hein.
Alors, c'est écrit comme ça.
La nation, on va dire.
Pas d'avis personnel.
Bah, c'est écrit.
Le président va te dire tout autant.
C'est écrit dans les prophètes qu'un Meler, il est Mishirmo Vamala. Qu'un roi, il est Mishirmo Vamala, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un roi, c'est quelqu'un que par définition, il doit être plus haut que le peuple. Il doit dépasser le peuple. Il doit les prendre de haut. D'accord ? Bon, moi j'aurais dit qu'un président doit faire la même chose, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas le message qu'ils nous font passer, les présidents d'aujourd'hui.
C'est des termes humains de l'époque.
Oui.
Au moment où ça a été écrit.
Oui, bien sûr.
Enfin, le roi, il a plus de pouvoir, le roi.
Si la vie d'avait mais nous, on a... avant...
Non.
Le mâle dominant, le chef de tribu.
C'est pour ça que je... Bonne question.
C'est des mots humains.
Vous savez, monsieur Benichou,
le roi, c'est pas...
C'est... J'ai lu...
Je voulais dire qu'il n'y avait pas de président.
Oui, oui, non, j'ai compris ce qu'il veut dire.
À l'époque de où ils ont écrit la vida, il y avait le roi.
Julien, tu
rattrapes un... se base sur le roi.
Bon, et,
voilà, la Torah
regardez,
est universelle.
C'est écrit.
Aujourd'hui, il y a plus de droit.
J'ai lu une histoire, monsieur Benichou, si vous me permettez. Ouais. J'ai lu une histoire que quand en Russie, avant il y avait un roi.
Après, il y avait le tsar.
Tsar. D'accord. Et après, ça a été... Attendez, laissez-moi finir, j'ai pas parlé. Mm-hmm. Et ça a été, et à un certain moment, ça a été, donc il y a eu la révolution, ça a été annulé. Il y a eu des rabbanim qui ont dit à leurs élèves la chose suivante, ils leur ont dit, maintenant on aura plus de mal, maintenant qu'il n'y a plus de roi, bon, nous on comprend encore, mais nos enfants auront plus de mal à comprendre la notion comment Akadosh Baruch Hu est notre roi. Ça veut dire que c'est des notions qui sont vraies, ça. C'est des notions, on fait appel à des notions de la vie de tous les jours, de l'époque, c'est sûr,
de
ça.
L'époque.
Mais c'est des notions qui sont vraies, parce que c'est quoi un roi ? Comme, qu'est-ce qu'il a dit David ? Il a dit un roi, il décide, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. D'accord ? Deuxièmement, on a dit qu'un roi, par définition, est plus haut que le peuple, il descend vers le peuple. Ça veut dire que lorsque le roi il montre au peuple, je m'occupe de vous, je vous dois rien, je vous donne quelque chose, je descends vers vous. Quand on dit que Kadosh Baruch Hu est un meler, c'est ça ce que ça veut dire aussi. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne doit rien, et que quand Kadosh Baruch Hu nous donne quelque chose, il descend vers nous. Chaque fois que vous verrez la notion meler dans la Torah, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ça les deux notions qu'on veut faire ressortir. Que Dieu ne doit rien, et que si déjà il nous donne, il est descendu vers nous. C'est-à-dire qu'il aurait pu rester dans son palais, il n'a pas besoin de nous. Meler. Alors, on a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est un roi qui est Ozer, d'accord, qui nous aide. Alors, par définition ici, comme explique le commentaire, aider, ça veut dire, il nous aide avant même qu'on demande. Ça, c'est la meilleure aide. Ozer, ici, c'est... Parce que Ezra en hébreu, ça veut dire quoi, monsieur Benichou ? Ezra.
Avant qu'on demande.
C'est quoi Ezra en hébreu ? Ezra.
C'est un prénom.
De l'aide. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous aide, d'accord ? Avant même... Ezra Tavotenu, exactement. On vient le lire avant l'Amida. Ezra Tavotenu Taumeolam. Et là-bas, les commentaires expliquent, ça veut dire quoi Ezra? Ça veut dire quoi Ozer? Ça veut dire quoi aider? Aider, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il nous aide avant même... D'accord? Avant même qu'on l'a demandé. Donc, Meler Ozer. Alors, attendez, donc, moi je reprends mes... Parce qu'en fait, ils se réfèrent à ce qu'ils ont expliqué ici. Voilà, Ezra Tavotenu. Voilà. Alors... Ezra, ça veut dire, donc Ozer, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous aide avant même qu'on lui demande, d'accord ? Et, ou Moshia, et il nous sauve. Là, on comprend. C'est quoi la différence entre aider et sauver ?
Sauve parce qu'on a déjà le problème. Ça n'a rien à voir. Sauve-moi de mon problème. Règle-moi mon problème.
Mais quand j'aide quelqu'un, je sauve son problème aussi.
Monsieur Béchut, il a une bonne définition.
Je viens de vous donner la réponse.
Je l'aide, c'est moi qui prends l'initiative.
Aider, vas-y.
Alors, aider, c'est quoi ?
Aider, il m'a rien demandé. Voilà. Sans même qu'il demande, je l'aide. Alors que sauver quelqu'un, ça veut dire qu'il appelle à l'aide.
Exact.
Et je réponds. Ozer ou Moshia ? Aider, sauver.
Ouais. Là, toi, là, aussi, c'est que l'action n'est pas la même. Quand tu sauves quelqu'un, c'est que toi seul qui fais l'action.
Oui.
Quand tu aides, c'est-à-dire que tu attends aussi de la personne qu'elle ait aussi une part d'action.
Non, pas forcément.
Quand tu aides quelqu'un finalement dans quelque chose, tu as ta part d'action, il a sa part d'action.
Oui,
quand
j'ai compris.
Tu le sauves, finalement, il y en a un seul qui
te fait l'action. Non, mais par exemple, ton voisin, il a un problème, tu dis
je vais l'aider.
Tu prends l'initiative, je vais l'aider. Il n'a rien demandé.
Là, la notion qu'on veut faire ressortir, c'est la notion d'initiative.
Écoute, voilà, je vais t'aider.
Mais après, il y a toujours... Si, moi, je demande de l'aide à ma
part. Quand quelqu'un se noie,
oui.
Il a fait le secours.
Non, on le sauve. On sent la corde.
On le sauve.
On peut le sauver, on le sauve, vous le sauvez, vous le sauvez là.
Tu le sauves en tirant la corde.
Non, c'est une notion.
Tu l'aides en lançant la corde.
Cette notion est valable dans les deux.
Tu l'aides en général.
Excusez-moi, cette notion que tu as dit que des fois on a besoin que la personne collabore, d'accord, ou coopère, c'est valable et dans aider et dans sauver.
Il n'y a pas de différence. Moi, sauver, c'est l'aboutissement.
Ça, le commentaire que je vous dis, c'est un.
Il va aller jusqu'au bout de l'aide et même si ça n'a pas marché, je te sauve quand même.
Non, c'est pas que ça.
Tu l'aides dans
la différence entre.
Très bien. Un petit se noie, tu lances une bouée. Tu l'aides,
mais tu ne l'as pas sauvé, il est encore dans l'eau. Pour le sauver, il faut le monter sur le bateau.
Oui, mais c'est l'action générale de sauver quelqu'un.
Glou.
Pour le sauver, on lui lance une bouée.
Alors, il y a deux. Donc, il y a une première explication qui est expliquée par le Bnei Issachar. Bon, je vais arriver à ce que vous dites.
Il lance des bouées, d'accord, après,
messieurs, on ne va pas se perdre. Première explication qui est expliquée par le Bnei Issachar, c'est ce que je vous ai dit. Que la différence entre Ozer et Moshia, c'est quoi la différence entre aider et sauver? C'est que aider, c'est j'aide quelqu'un alors qu'il ne m'a rien demandé. Alors que Moshia, d'accord, Moshia, ça veut dire je le sauve suite à une demande. C'est la différence entre Ozer et Moshia. Maintenant, le Malbim, il donne une autre explication sur Ozer et Moshia. Il dit comme ça, d'accord. Il dit que Ozer, c'est quoi la différence entre aider et sauver, entre donc une aide et un sauvetage. C'est que quand je dis que j'aide quelqu'un, donc c'est un petit peu ce qu'il va vous le dire, d'accord. Ça rejoint ce que Yves tu voulais dire. La différence entre aider et sauver, c'est que quand j'aide quelqu'un, qui c'est qui fait la grande majorité du travail? C'est lui. Moi, je suis là pour l'aider. Si tu as besoin de là, je suis là. Alors que quand je sauve quelqu'un, d'accord, par définition, normalement, quand je sauve quelqu'un, celui que je suis en train de sauver, il est déjà perdu, il est déjà en train de se noyer, je ne peux rien faire. Ça veut dire que la différence qui est entre aider et sauver serait qui fait le plus clair du travail. Dans aider, c'est la personne qui est sauvée qui fait le plus clair du travail, alors que quand je sauve quelqu'un, c'est moi qui fais le plus clair du travail. Donc d'après le Malbim, ce serait la différence entre Ozer et Moshé. C'est ce que tu voulais dire?
Exactement.
Très bien. Non. Donc Ozer et Moshé, Hazak. Moi j'avais pas compris ça, j'avais compris que tu voulais dire, bon, j'avais compris dans une autre direction.
Mais il rit.
Non, Malbim.
Oui, mais qu'est-ce qu'il dit quand
question
il rit.
D'accord. Donc Ozer ou Moshia, ou Magen. Et à Kadosh Baruch Hu, d'accord, donc Ozer ou Moshia, Kadosh Baruch Hu, donc il nous aide et il nous sauve, on a expliqué la différence entre les deux, ou Magen, et il nous protège, d'accord. C'est-à-dire quoi protéger? On a dit, il y a aider et il y a sauver. On a expliqué la différence entre les deux, d'accord.
Ensuite, il met l'antivirus.
C'est quoi, là? C'est quoi sauver? Sauver, ça veut dire empêcher que le problème arrive. C'est-à-dire qu'il peut nous aider dès que le problème est arrivé, avant même que le problème
protéger.
Voilà, donc il peut nous aider, il peut nous sauver, et il peut nous protéger. Protection antivirus. Tac, il nous bloque. Ou Magen, il nous protège. D'accord. De la même manière qu'exactement, Magen en hébreu, c'est un bouclier. D'accord. Un bouclier, c'est pas un docteur. Il dit pas, si tu as une flèche qui rentre, je vais te guérir. Non. Un bouclier, c'est il empêche. Avant que la flèche rentre, il dit, elle rentrera pas. Donc Ozer ou Moshia ou Magen. Magen en hébreu, c'est un bouclier. D'accord. Non, Magen, ça a jamais voulu dire une étoile.
Ah, mais pourquoi on dit alors
étoile? Parce que le bouc... Enfin, ceux qui disent que le Magen David a son importance, ils disent que le Magen David, c'était le bouclier de David, que le bouclier de David avait cette forme-là. Il y avait cette forme qui était écrite dessus.
Ouais.
Non, il y avait sur le bouclier, il y avait cette étoile-là, qui était dessinée. C'est un bouclier, vous savez, sur le bouclier, il y avait... Ceux qui disent que... Honnêtement, bon, aujourd'hui on dit que le roi David n'avait jamais de bouclier avec le Magen David. Hein,
c'est au cinéma.
C'est au cinéma. Maintenant, bon, est-ce qu'Alpi Kabbalah, le Magen David, a son importance ou pas? C'est une autre question. Peut-être oui, peut-être non.
On a appris au sein.
Il y a une lettre de Rabbi précédente dans laquelle il dit qu'Alpi Kabbalah, il n'y a pas d'importance sur le Magen David.
Hein,
c'est un symbole, peut-être. C'est un symbole, comment on dit, c'est le symbole du pays.
L'emblème.
C'est un emblème, pourquoi pas. Mais Alpi Kabbalah, il y en a qui sont partis chercher des choses qui n'existaient pas.
Le Magen de Salomon, lui, c'était un carré dans un carré. Mais il faut dire que le tournevis torque, vous savez le tournevis torque, c'est une petite magaine David en relief oui, à l'intérieur des vis. Uh-huh. Et ben, ils ont dit que c'était la meilleure cohésion atomique de tenue pour visser mieux que les clés Allen, mieux que tout. Ouais, ils ont dit cette forme d'étoile là. Et ben oui, donc ça s'appelle torque.
Enfin, un carré aussi, c'est très bien.
Non, mais il n'y a pas mieux que ce truc à 6. Enfin,
un carré, c'est une meilleure adhésion encore.
Question de force.
C'est une question de cohésion. Ah, quand tu mets des trucs gros comme ça dans des bateaux avec un mètre de métal de profondeur, il faut...
Bon, c'est... Ok. Donc, Meller Ozer... Allez, on finit.
Il faut ça.
Meller Ozer ou Moshia ou Magen. Donc, Akadosh Baruch Hu.
On l'a déjà dit.
Voilà. Il nous aide, il nous sauve et il nous protège. Ah. D'accord. Baruch Ata Hashem. Tu es béni Hachem, donc on a déjà expliqué ce que ça veut dire quand on dit qu'il est béni, c'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de faire descendre la bracha. Magen Avraham, celui qui a protégé Avraham, car après c'est quoi ce sort le protecteur d'Avraham? Akadosh Baruch Hu avait promis à Avraham, il lui avait dit t'inquiète pas, d'accord, c'était juste avant qu'Avraham s'en aille, donc de sa terre, il lui a dit t'inquiète pas, Anochi Magen Lecha, je te protège, Magen. Donc quand on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, on fait allusion à Kadosh Baruch Hu, tu as promis à Avraham de le protéger, nous on est ses enfants, donc tu dois nous protéger aussi. D'accord ? Donc, de manière générale, si tu peux me dire en...
Il avait promis à Jacob aussi de le protéger tout le temps.
Il n'y avait pas le terme Magen.
Ah, d'accord.
À Jacob, il a dit, je serai avec toi.
Ah, d'accord.
Je serai avec toi, ça peut être aidé, ça peut être sauvé, ça peut être aidé à la vie. Mais là, c'est protégé, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est du...
Je pensais qu'il avait
c'est, comment, dire, comment on dit que, quand on, c'est la prévoyance. D'accord Donc, de manière générale, si on peut résumer la première bracha, de quoi elle parle la première bracha en deux mots. Qui peut me dire De quoi elle parle la première bracha
Celle-là, là
La première. De quoi ça parle Voilà. Demain, vous allez faire la Amida, ou bien tout à l'heure, à Mitra, vous allez faire la Amida. Vous allez dire la première bracha en à peu près 10 secondes. À quoi vous allez penser pendant ces 10 secondes
que Dieu il est à la base de tout et qu'il
que Dieu il fait la base de tout, que Dieu il fait descendre la bracha, et que voilà le mérite de nos ancêtres et qu'en vérité tout ça c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc le mérite de nos ancêtres. Eh bien, on s'arrête. Bon, on va s'arrêter la prochaine bracha déjà. Bon, venez, on va faire puisqu'on est déjà là, on va faire le Zochenu Lechaim qu'on dit pendant les jours de pénitence. Pourquoi pas. Alors. Zochenu Lechaim, donc ça c'est quelque chose qu'on dit pendant les... C'est quelque chose qu'on rajoute pendant les 10 jours de pénitence. D'accord. Alors, Zochenu Lechaim.
C'est goy, c'est pénitence.
Zochenu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-nous, souviens-toi de nous pour la vie. Ça veut dire, on demande à Kadosh Baruch Hu de décider de nous donner la vie. Melech Hafetz Bachaim, toi Kadosh Baruch Hu qui es un roi, qui veut que les hommes vivent. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a des rois qui veulent ou ils veulent pas. Ils ne prennent pas la tête. Toi, Kadosh Baruch Hu, on sait que tu veux qu'on vive. On parle bien sûr de la vie spirituelle ici. Donc, Zochenu Lechaim, à Kadosh Baruch Hu, décide, donne-nous la vie. Toi qui es un roi qui veut la vie, d'accord, comme c'est écrit dans Ézéchiel. Vekodvenu Vesefer Chaim, Lemancha Elokim Chaim. Et à Kadosh Baruch Hu, on te demande de nous écrire dans le livre de la vie, Lemancha Elokim Chaim, d'accord, pour ton nom. Toi, Dieu qui est un Dieu vivant. Combien de fois il s'est écrit le mot Chaim ici?
Deux fois.
Quatre
fois. Quand?
Zochenu Lechaim.
Zochenu Lechaim.
Oui, quatre fois, d'accord.
Zochenu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim. Donc, bon, apparemment, c'est un peu poétique, d'accord? Zochenu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim. Donc, en autre terme, ce qu'on demande en gros, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous amener la vie. D'accord? On est à Rosh Hashanah, on est autour du Yom Hadin, donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous amener la vie. Alors d'où vient ce texte, Zochenu Lechaim? Je ne sais pas si vous remarquez, on sent qu'il y a un petit peu une différence par rapport au reste de l'Amida. Dans le reste de l'Amida, il n'y a pas des rimes comme ça. Il y a un peu de rimes, mais pas là, c'est vraiment assez flagrant là. Zochenu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim, Vechodvenu Besefer Chaim, le Manchal, d'où ça vient ça? D'où vient ce texte? Alors ce texte, il vient de Maseret Sofrim, dans la Gemara, d'accord? Il y a plusieurs traités, et un des traités, on appelle ça les traités courts, d'accord, c'est pas les grands traités comme on a ici, c'est les traités courts qui sont à la fin de Maseret, il s'appelle le Maseret Sofrim, d'accord, donc le traité des scribes, dans lequel il y a toutes sortes de tfilotes. Et cette fila ici, là, ce poème, apparemment, n'a pas été composé en même temps que la Mida, il a été composé dans Maseret Sofrim, par les Chachamim de l'époque, donc de l'époque de la Gemara. Et on le retrouve aussi dans Tosfot.
C'est pas Knesset Agdala alors.
Non, c'est pas Knesset Agdala. Ça, c'est pas Knesset Agdala. Zochanou le Chaim, c'est pas que c'est Gdola. C'est pour ça qu'il y a des halachot différentes. Pour celui qui a oublié, par exemple, s'il a oublié ça, il recommence pas. Parce que c'est un rajout. Alors que le texte brut de l'Amida, ça c'est Knanchek Neset Gdola. Bien que, comme ce que j'expliquais la semaine dernière, le texte de Knanchek Neset Gdola, il était perdu. On l'a retrouvé. Mais les Chachamim ont témoigné que ce que Shimon Apakouli a écrit, c'était exactement ce qu'on connaissait à l'époque de Knanchek Neset Gdola. Voilà. Je vais rattacher la semaine prochaine, on continuera avec la deuxième bracha, Tagibor, le Lamachem. Donc voilà, en gros c'est ça. A Kadosh Baruch Hu, on lui demande de faire descendre la bracha, donc de nous débloquer l'argent qu'il a dans le compte pour nous, et de rappeler le mérite de nos patriarches, et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il va nous sauver.
Amen.
Alors, qu'est-ce que ça donne ? L'enregistrement.